Bonsoir, bienvenue. C'est la troisième soirée du cycle Bâtisseur de Monde organisée par la bibliothèque Rilke. On était là déjà jeudi soir pour parler de petites éditions et de mondes imaginaires. Hier, il y avait Nicolas Fructus et Laurent Genefort qui parlaient de leur manière de construire des mondes. Et cette troisième soirée, c'est une manière de poursuivre le cycle et la thématique avec une autre manière de construire des mondes, non pas par l'illustration, non pas par l'écriture, non pas par l'édition, mais par le jeu de rôle, même si on va voir que finalement, tout est un peu intriqué dans le projet de Morgane. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais joué au jeu de rôle et qui ne savent pas ce que c'est dans la salle?
Ouais. Jamais joué.
Jamais joué,
mais j'ai une vague idée.
D'accord. Ok.
Bienvenue.
on va commencer à expliquer ce qu'est le jeu de rôle, peut-être.
Non. vas-y.
Flûte. Alors ça va être très rapide, et on va faire un truc très synthétique et totalement faux comme toutes les définitions. Définir le jeu de rôle, c'est comme définir la science-fiction, c'est une tâche totalement impossible et personne n'est d'accord sur ce que c'est.
Voilà, c'est pour ça que je le laisse faire.
Voilà, grosso modo on va dire que c'est une manière de raconter une histoire ensemble, autour d'une table, en mettant en scène des personnages dans un univers plus ou moins réel, plus ou moins fictif, en fonction de données qui ont été écrites généralement dans un livre de règles, mais pas forcément. Et là, en l'occurrence, on va parler de ce jeu qui s'appelle Sur la route de Chrysopée. Et si tu ne peux pas répondre à la question qu'est-ce qu'un jeu de rôle, tu peux peut-être nous expliquer ce qu'est. Alors, Morgane Régnier, avec nous ce soir, autrice, et donc Sur la route de Chrysopée, c'est ton premier jeu.
Oui, c'est ça. Il a un an. Voilà, joyeux anniversaire à lui. Oui, c'est mon tout premier jeu, et ce jeu-là, il est un peu particulier. Il est auto-édité, c'est-à-dire que je ne suis pas passée par une maison d'édition. Je l'ai publié à mon compte. Voilà, donc je suis auteur et éditeur de ce jeu-là. Il y a bientôt d'un deuxième, mais il ne faut pas le dire.
Alors du coup, l'une des difficultés qui aurait été de définir le jeu de rôle par rapport à ton jeu, c'est que généralement, la création de l'histoire collective, on la joue autour d'une table, à plusieurs, et en utilisant la parole pour décrire soit les actions de son personnage, soit l'univers, soit comment l'univers réagit à son personnage.
Voilà.
Enfin, tous ces éléments-là.
Et tous ces éléments ne sont pas dans mon jeu. Comme ça. Vous m'entendez bien au fond ou pas? Ok. Comme j'ai un peu le stress. Chrysopée, c'est un jeu qui est un peu particulier. C'est un jeu de rôle épistolaire, c'est-à-dire que l'histoire ne se construit pas par une discussion, mais par une correspondance entre deux personnages. C'est-à-dire que pour ceux qui ont fait un peu de jeu de rôle ou qui ont une vague idée de ce que c'est, il n'y a pas de maître du jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entité qui aurait en main plus ou moins l'aventure globalement et qui vous donnerait des informations au fur et à mesure. Il s'agit d'un jeu où il n'y a que deux personnes qui sont joueurs à part égale, un maître et son apprenti dans un monde imaginaire. Donc vous avez la carte juste là. On aura peut-être la chance de croiser Marion qui a fait les illustrations. Si c'est le cas, j'arrêterai tout pour vous la présenter. Cet univers-là est le témoin d'une quête alchimique que les deux personnages vont essayer d'accomplir ensemble, c'est-à-dire qu'ils cherchent à atteindre Chrysopée, qui est la ville fabuleuse de la connaissance, du bonheur, du savoir absolu, etc. Et donc ils vont s'entraider, et comme ils voyagent tous les deux en même temps, ils ne peuvent communiquer que par écrit, et donc le principe du jeu, c'est de faire avancer leur aventure via la correspondance qui sera le support de jeu. Donc quand Julien vous dit que ça se passe autour d'une table, ben en fait non, parce que comme c'est une correspondance, ça se passe avec votre bureau ou éventuellement avec votre ordinateur. Qu'il s'agit d'une conversation à plusieurs, ben alors non, c'est une conversation, enfin c'est une correspondance à deux, et voilà, on a fait le tour, je crois.
Oui.
Voilà, ce qui est si à un moment donné vous avez des questions, vous avez le droit de m'interrompre.
N'hésitez pas à nous interrompre si vous avez
des questions. Moi je vous poserai des questions, parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit toujours.
on va dire qu'il y a une structure traditionnelle du jeu de rôle qui s'est créée dans les années 70 autour de Donjons et Dragons, qui est le premier est un peu l'ancêtre des jeux de rôle. Depuis quelques années, les méthodes de jeu, les manières de faire, les manières de raconter ces histoires, ça se multiplie de plus en plus et ça mute de plus en plus. Donc là, tu as expliqué un peu comment fonctionnait Sur la route de Chrysopée. C'était déjà apparu dans un jeu auparavant qui s'appelait De Profundis et qui permettait de raconter des histoires assez sombres. C'est surtout dans le manuel une manière de dire comment les gens doivent s'organiser pour pouvoir raconter l'histoire en commun et partir sur quelque chose de collectif et pas de partir chacun dans son sens dans ouais. quelque chose
Pour ceux qui ne connaissent pas De Profundis, c'est un univers qui est inspiré de Lovecraft, et donc de Cthulhu et de ces œuvres-là, qui se présentent effectivement sous forme de feuillets, qui vous expliquent un petit peu comment vous allez pouvoir jouer. Il n'y a pas vraiment de système de règles dans De Profundis, c'est-à-dire qu'on vous dit globalement ce que vous allez faire et comment le faire, mais il n'y a pas de construction de règles. Pour Chrysopée, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait une progression qui est établie dans le livre, de manière à ce que vous avanciez quand vous jouez au jeu, sur la même direction. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de s'envoyer des lettres et de voir ce qui se passe. Vous avez des choses à faire. En l'occurrence, comme vous êtes des alchimistes, vous avez une progression alchimique à faire qui se rapproche un peu du grand œuvre. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont un peu familiers avec les termes de l'alchimie, mais grosso modo, vous avez des étapes initiatiques à franchir les unes derrière les autres, en commun, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour faire ça tout seul dans votre coin. Vous avez quand même votre correspondant, donc il faut réussir à les franchir en s'entraidant l'un l'autre, et au terme de cette quête initiatique, vous serez des alchimistes accomplis, et donc normalement, si vous avez bien travaillé, les portes de Chrysopée s'ouvrent à vous, et vous en profitez pour le restant de vos jours, si vous voulez.
On n'a pas besoin d'un bac plus 5 en alchimie pour jouer sur la route de Chrysopée?
Oh non, absolument pas. Alors moi, j'ai pas de bac plus 5 en alchimie, je dois même avoir un bac moins 3, donc non, il n'y a pas de souci.
Voilà, c'est plus quelque chose qui est de l'ordre de la symbolique qu'une exploration de tradition réelle pour laquelle il faudra déjà apporter un savoir.
Oui,
on peut y jouer sans avoir aucune notion.
Absolument. En fait, je n'ai utilisé l'alchimie que parce que c'est un support de couleurs, parce que c'est très poétique, les termes alchimiques, et que ça permet de toucher la fibre imaginaire. Pour ceux qui connaissent, il y a moyen de s'en emparer. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas grave. L'idée, c'est que dans le jeu, vous avez des pistes à explorer que je donne pour ceux qui aurait du mal à inventer d'emblée quelque chose. Et donc, du coup, c'est surtout une histoire de couleur, de langage. Voilà. Quand on parle d'alchimie, tout de suite, on a des images dans la tête, ça commence à faire rêver. C'était le but, en fait.
Alors, on a commencé à parler d'alchimie. Il y a une autre composante importante dans Chrysopée, c'est le voyage. Et notamment un voyage qui se passe dans des terres dont on a la carte là. Est-ce que tu peux nous parler un peu du monde dans lequel ça se situe? Qu'est-ce que tu as essayé de créer?
Tout à fait. Alors je vous présente le monde tout autour, puisque c'est le nom de l'univers dans lequel le jeu se place. Le monde tout autour est globalement divisé en deux grands types de régions. Vous avez ce qu'on appelle les régions aérées, qui sont les régions où l'homme a fait en sorte de favoriser la présence du vent. Donc il a fait de l'urbanisme à grande échelle, il a créé des cités extraordinaires, il a creusé des canyons, il fait voler des villes. Dans ces régions aérées, la technologie est très avancée, au sens du monde, hein, c'est-à-dire que c'est pas du tout un monde futuriste. Il y en a qui parlent de monde steampunk, je suis moyennement d'accord avec ça, mais pour ceux qui connaissent un petit peu le steampunk, le côté un peu vintage, voilà, des choses comme ça. Et ces régions sont donc des régions basées sur la science, sur le progrès, sur la communication rapide, sur l'ambition, des choses comme ça. Et vous avez, donc c'est plutôt les cités qui sont sur le... Du coup, pour vous, c'est de ce côté-là, qui sont à l'ouest du continent. De l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle les zones immobiles, hein, qui sont des zones où le vent n'est pas présent du tout. Alors, ça a un désavantage, c'est que les tribus, les caravanes qui évoluent dans les zones immobiles, ben, vont au rythme du temps, un temps assez long, de tradition, de chamanisme, de vieilles ruines à explorer. Le vent a un désavantage, même s'il provoque le progrès, il érode énormément les témoignages du passé. Donc les régions aérées sont des régions qui vont toujours de l'avant. Quand les zones immobiles, qu'on pourrait penser arriérées, sont en fait des zones de tradition et de préservation du passé. Après, à vous de voir, en fonction de votre sensibilité, si vous êtes plutôt immobile ou plutôt aéré. Voilà.
Ce que tu écris dans le livre, c'est une bible ou c'est plutôt une inspiration pour les joueurs? C'est quelque chose qu'il faut restituer ou quelque chose dont il faut s'emparer?
C'est un peu les deux. C'est-à-dire que ce que j'essaye de donner dans le livre, c'est ce que moi j'aimerais faire transparaître comme ambiance. Quelque chose d'assez mélancolique, quelque chose d'assez contemplatif. Je ne sais pas, penser à l'Orient Express, penser aux voyages en zeppelin, penser aux caravanes en Mongolie, des choses comme ça pour ce qui est du voyage. Quelque chose qui permet de faire éclore la réflexion, la poésie, l'intimité aussi. Mais en même temps, c'est un univers que j'ai pas voulu figer, c'est-à-dire que c'est pas une encyclopédie, vous pouvez tout à fait créer des lieux. D'ailleurs, la carte est très loin d'être complète. C'est-à-dire que moi, je donne quelques pistes, quelques lieux, comme ça, ça donne un peu de matière, et après, à vous de créer les lieux qui vous parlent. Voilà. Donc c'est un équilibre un peu subtil, où il faut réussir à dire ce que moi, j'aimerais bien que vous puissiez jouer, et en même temps que vous ayez la possibilité de jouer ce qui vous fait plaisir.
Il y a une cohérence dans ce que tu as fait, on a commencé à l'entendre un petit peu. Du coup, par rapport à toi, le monde, en fait, il était préexistant au projet de Chrysopée, ou est-ce qu'il a été créé pour supporter le jeu et les mécaniques de jeu?
La réponse, un peu des deux à la fois. C'est-à-dire que moi, j'étais partie avec des images en tête, donc justement, les trains comme ça, le transsibérien, des choses comme ça. Je me disais, oh, j'aimerais trop que ça puisse se passer dans des univers comme ça. Et en même temps, j'avais vraiment envie de transmettre le voyage. Le problème du voyage, c'est que quand on voyage, les choses prennent du temps. C'est long d'avoir des nouvelles, c'est faut attendre d'arriver quelque part. Bon, maintenant avec le téléphone, c'est plus simple, mais imaginez que vous n'avez pas de portable à disposition. Et donc, parler de voyage, ça veut dire réussir à retranscrire dans le jeu des moments où il ne se passe rien. Ce qui paraît un peu ambivalent quand on fait du jeu de rôle, il y a toujours des choses à faire, à raconter. Là, le but, c'était de créer un jeu où il y a des moments où il n'y a rien. Quand vous ne recevez pas de lettres, bah, vous n'avez pas de nouvelles. Et quand vous n'avez pas de nouvelles, bah, vous imaginez des trucs, vous vous inquiétez, vous dites « mais il m'a oublié, mais qu'est-ce qu'il fait, mais il est où ?» Et donc c'est pour ça que le jeu a pris la forme d'une correspondance, c'était pour pouvoir réussir à jouer sur ces moments de silence. Donc à la fois j'avais envie de voyage dans des univers et dans des paysages particuliers, et en même temps, à partir du moment où je me suis dit « ok, ça va être des alchimistes, des choses comme ça », il y a plein de choses qui se sont décantées derrière, et je me suis mis à imaginer des académies avec des coupoles énormes, et puis des citadelles qui volent, puis qui se crachent comme ça dans la lande. Voilà, en gros, hein, c'est pour... C'est très intéressant d'aller fouiller les citadelles qui se crachent dans la lande. On y trouve des trucs super, je sais pas quoi, hein, mais vous allez trouver des trucs chouettes.
Du coup, tout à l'heure, tu parlais de quelque chose qui est constitutif du jeu de rôle, qui sont les règles. Alors, dans Chrysopée, il n'y a pas les 6 caractéristiques traditionnelles, on va dire, du jeu de rôle Donjons et Dragons.
On lance des dés.
Voilà, on lance des dés. Alors là, on lance pas de dés, on se parle pas, on lance pas de dés et on n'a pas de caractéristiques. Du coup, sur quoi repose le jeu?
Alors, on n'a pas de caractéristiques, oui et non, dans le sens où quand on crée son personnage, je demande quand même à ce qu'il y ait un certain nombre d'informations qui apparaissent. Votre nom, et vous ne pouvez pas vous appeler n'importe comment, parce qu'en fonction de l'endroit d'où vous venez, vous avez des façons de composer les noms et les prénoms qui sont particuliers. Bon, tout ça, c'est expliqué. Hein. Et surtout, les étapes clés, qui sont en fait le système de règles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action à mener, vous êtes tout seul avec votre papier, donc ça ne sert à rien de lancer un dé. Par contre, donc il n'y a pas de succès et de réussite, c'est à vous de choisir si vous avez envie d'échouer ou que ça prenne du temps. Par contre, quand vous avez une étape clé à valider, je vais prendre l'œuvre de Mars, on va commencer comme ça. En fait, les étapes clés ont des noms de planètes, hein, comme en alchimie, Mars, Vénus, Pluton, etc. Mars, en l'occurrence, ce n'est pas la planète de la guerre, c'est la planète du savoir-faire et de l'artisanat, et elle est hyper importante quand vous commencez, parce que vous ne pouvez pas vous lancer sur les routes sans avoir un peu de matériel à disposition. Un peu de matériel, ou un véhicule, ou des choses qui peuvent vous aider. Première étape pour lancer votre voyage, vous fabriquez un outil. Voilà. Et c'est pas vous qui allez décider tout seul ce que vous allez vous fabriquer, c'est trop facile. C'est le joueur d'en face qui va vous dire « Bon, bah, maintenant que t'es bien avancé, etc., tu veux partir voyager, génial, comment tu vas te déplacer? Tiens, construis-toi une roulotte. » À vous maintenant, au fur et à mesure de votre correspondance, de raconter comment vous allez vous construire cette roulotte. Et à terme, c'est le joueur d'en face, toujours, qui va vous dire « Très bien, écoute, je pense que là, ta roulotte, elle tient la route, quoi, globalement. Allez, vas-y, lance-toi, c'est parti, envoie-moi des nouvelles quand tu seras arrivé à la prochaine ville. » Ça marche pour le personnage de l'apprenti, c'est-à-dire que le maître va guider tout doucement son disciple petit à petit, mais ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en tant qu'apprenti, ben, vous allez aussi demander à votre maître de faire certaines choses. Donc les étapes ne se valident pas de la même façon, sinon vous, si vous êtes l'apprenti ou si vous êtes le maître. Le maître, lui, a du travail de recherche à faire, d'exploration de documents, éventuellement de confrontation avec ses pairs, etc., pour vous aider à avancer. Quand vous, disciples sur les routes, ben vous allez user vos semelles. Et puis voilà, et puis il va falloir, pourquoi pas, gérer des questions d'argent. Peut-être que vous ferez des ennemis qui vont vous courir après, qui sait.
Donc la question de la tension qui peut être à l'intérieur d'un système et qui peut être matérialisée par un jet de dés, là c'est plus une manière de se challenger l'un l'autre en se donnant des contraintes pour continuer à faire avancer son personnage dans la voie qu'on s'est fixée.
Oui, parce qu'en fait, se donner ses contraintes à soi-même, ça marche pas trop, ça fait pas beaucoup d'enjeux, il n'y a pas beaucoup de suspense, si vous savez déjà ce que vous allez faire, c'est pas drôle. Quand on vous propose un défi à relever, c'est beaucoup plus sympa.
C'est presque une manière d'organiser un atelier d'écriture, en fait, de donner une contrainte créative qui permette de...
Alors, pour le coup, j'ai une amie qui est prof de français et qui s'est servie du système de Chrysopée pour faire un atelier d'écriture à ses élèves. Donc, elle leur donnait pour comme atelier d'écriture d'incarner un paysage, un personnage, et de s'envoyer des lettres comme ça autour de la question de l'épistolaire. Ils étaient contents, il paraît.
Alors l'intitulé de la soirée, c'est « Jeux de rôle et littérature ». Pour l'instant, on a parlé de jeux de rôle, on va parler un peu de littérature aussi. Et avant d'entamer les questions sur la littérature à proprement parler, mais j'aimerais bien que tu dises aux gens quel type de lectrice tu es. Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce qu'il y a des auteurs comme ça qui reviennent? Pas forcément par rapport à Chrysopée, mais même en général. Qu'est-ce qui t'inspire?
Qu'est-ce que j'aime bien? J'aime beaucoup la science-fiction et la fantasy. Ça c'est fait. Donc c'est bizarre, qu'est-ce que je fais là? Je suis une lectrice de bande dessinée aussi, j'aime beaucoup les romans graphiques en fait, je trouve ça super. Alors dans la série des livres qui m'ont marqué, Robin Hobb, est-ce qu'il y en a qui connaissent l'Assassin Royal, tout ça? Oui, parce que vous pouvez genre lever la main, tu sais. Ouais, Robin Hobb, voilà, Les Dames du Lac, Les Brumes d'Avalon, là-bas au fond, j'aime énormément... j'aime beaucoup la science-fiction type Rendez-vous avec Rama, donc les histoires de vaisseaux spatiaux, ah il y en a un peu partout là-bas. J'aime énormément les récits arthuriens, donc le cycle du Graal, hein, toutes ces choses-là. Barjavel, l'enchanteur, qui je crois est un de mes livres préférés de tout le temps. Après, en bande dessinée, qu'est-ce que je peux citer? Valérian et Laureline, pas la version de Besson, voilà. Valérian et Laureline, Les Cités Obscures de Schwitten et Peters, là-bas un petit cœur. Quoi d'autre? Il y en a... C'est trop. Jadis, très récent, le livre de Nicolas Fructus et de... Ah, Mathieu Gabory, voilà. Le cycle des princes d'ambre. Enfin, voilà, ça vous donne un peu une idée de ce que ça. Et puis, j'aime bien lire des mangas aussi. Donc, Mushishi, Bright Story. Alors, je vous conseille, c'est un truc à lire, c'est lisez Bright Story, c'est trop bien. Voilà, mais il y a une partie des trucs là qui sont là. Et puis, voilà.
Il y a une tendance à l'épopée quand même.
Ouais, j'aime bien les épopées, voilà. Après, moi je lis de tout, on me conseille plein de trucs, mais c'est vrai que les univers fantastiques, ça m'a toujours fait rêver. Et j'aime bien les livres aussi qui partent du principe d'explorer un univers. Alors, pour ceux qui ne connaisseraient pas Jadis, c'est un livre qui a été écrit à 8 mains, du coup, avec 4 auteurs et un dessinateur, c'est un jeu littéraire. Et dans la même collection, c'est des éditions Memnos, allez, je leur fais de la pub, vous avez le guide touristique de la cité d'Abîme de Mathieu Gabory, qui est un vrai guide touristique d'une ville complètement fictive, et moi je trouve ça juste trop bien. Voilà, c'est super chouette.
C'est déjà une manière de se donner un cadre pour errer dedans et de faire ton propre parcours.
Oui, c'est ça, puis ça donne envie de rajouter des articles, de créer des lieux, bon, je trouve ça trop cool.
Alors du coup, par rapport à Chrysopée, tu as organisé le jeu, je dirais, en deux parties. Il y a le manuel et puis il y a le site qui est les archives suspendues, dans lesquelles tu voulais aussi proposer du matériel, mais aussi que des gens participent. Oui.
Alors en fait, j'aime pas l'idée des jeux de rôle à supplément où vous avez à payer 20 euros pour avoir un bout de l'univers en plus. Je trouve pas ça très sympa. Donc j'ai créé un jeu où vous avez le bouquin, puis vous jouez après comme vous voulez. Mais par contre, si vous avez envie de partager des lieux que vous avez inventés ou des morceaux de votre correspondance, ou même moi si j'ai envie d'inventer des lieux en plus, bah, j'ai créé un site qui s'appelle les archives suspendues. Un site internet. D'ailleurs, si on a accès à internet tout à l'heure, je pourrais vous le montrer. Et donc, je rajoute du contenu. Voilà, à vous d'aller piocher dedans. Ce qui est intéressant, c'est que les archives suspendues, elles existent dans l'univers du monde qui fait tour. Elles sont... Par là-haut. Et donc, vous pouvez aller explorer les archives suspendues en tant que personnage pour aller piocher des informations. Donc, vous pouvez vous servir du site internet comme outil de jeu. Voilà, en faisant référence à des articles qui existent, en sachant que le but des archives suspendues, c'est de préserver les correspondances des explorateurs. Donc si à la fin d'une partie de Chrysopée, vous avez envie que je la mette en ligne pour qu'elle puisse être accessible à d'autres explorateurs, c'est possible.
C'est une manière de retrouver un peu ce monde que tu donnes aux autres en...
Oui, et puis parce que j'avais pas envie d'écrire un livre de 300 pages avec plein de lieux comme ça à la fin, mais j'avais quand même envie de pouvoir en rajouter s'il y avait une idée qui me venait après la publication. Donc c'est aussi pour me faire plaisir, hein. Nous mentons pas.
Alors, on cerne un peu mieux ton parcours de lectrice. Il y a aussi autre chose importante, autre que les textes, c'est la forme que prend le livre. Et là, ça a une importance particulière. Bah, ils sont sur la table toute la soirée. Mais c'est un petit ouvrage de 120 pages environ, et sur lequel tu as pris un soin assez particulier à travailler sur la maquette, la fabrication, des choses comme ça.
Alors, en plus des livres que je vous ai cités, j'adore les carnets de voyage. C'est-à-dire que j'adore les livres où il y a des croquis, où on a rajouté des pages, où on a mis des feuilles, des choses comme ça. Quand j'étais petite, j'ai joué à un jeu vidéo qui est trop cool, qui s'appelle Les Carnets de l'Oncle Ernest, où on feuillette un tu connais. Où on feuillette un carnet de voyage et puis on doit interagir avec les éléments qui sont sur les pages. On prend une coccinelle, on la déplace de page en page, c'est trop mignon. Et en fait, j'avais envie d'un livre comme ça, un livre qui fasse carnet de voyage, comme si vous aviez récupéré un ouvrage de quelqu'un. Alors en l'occurrence, le livre de règles, il n'a pas été écrit par moi, il a été écrit par une barre des géographes. Donc c'est son travail que moi j'ai compilé dans mon livre. Et donc c'est elle qui, en parcourant le monde tout autour, en fait, vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Et donc du coup, il y a des illustrations de Marion, j'espère peut-être elle viendra. Donc ça, c'est son travail à elle, qui est une énorme partie du livre, c'est-à-dire que c'est pas juste du texte, c'est aussi des images, beaucoup, et elle a pris un soin très particulier à illustrer le jeu. Du coup, voilà. J'estime que Chrysopée, c'est 50% de son travail et 50% du mien, globalement. On peut passer des images, bah je ferai peut-être. Oui, tu peux. C'est juste qu'au milieu, il y a les. Oui, on peut, bien sûr. Mais du coup, moi, je peux pas. J'ai pas de. Vous verrez comme ça des exemples. Donc, c'est elle qui a fait la carte. Enfin, en fait, elle a tout fait, globalement. Et donc, oui, l'idée, c'était d'avoir un livre qui soit aussi un support à l'imagination. C'est-à-dire que quand vous feuilletez le livre, c'est pas juste un livre de règles, c'est un carnet de voyage. Donc, déjà, vous êtes dans le. Disons qu'on fait ce qu'on appelle du méta-jeu, c'est-à-dire que le jeu est à la fois ce que vous allez créer, mais il commence déjà avec, dans la réalité, avec le livre que vous avez entre les mains. Et ça, la passerelle entre la réalité et la fiction, globalement, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie d'essayer, c'est-à-dire que, en fait, l'univers de Chrysopée va s'inspirer de la réalité, et votre réalité va finir par s'inspirer de celle de Chrysopée. Et ça, c'est chouette aussi.
Et ça, est-ce que tu peux nous en parler un peu, dire comment ça arrive, en fait ?
Oui, tout à fait. L'idée, c'est que... En fait, le but de ce livre, c'est, on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est de réenchanter le quotidien, c'est-à-dire que tous ces objets ou tous ces lieux que vous traversez machinalement le matin dans le métro, tous ces gens que vous croisez, vous n'y faites pas attention, en fait, vous pouvez vous en servir pour faire avancer votre périple. Par exemple, on va prendre monsieur qui est là. Alors, je suis en train de discuter tout ça. Moi, j'ai une partie de Chrysopée avec le monsieur qui est là. Et je sais pas, je trouve qu'il, je sais pas, il m'inspire un personnage intéressant. Alors, discrètement, comme ça, pendant qu'il le sait pas et tout, tac, je le prends en photo. Et en fait, dans ma prochaine lettre, au lieu de dire que j'étais dans la bibliothèque que à Paris et qu'on parlait de jeux de rôle, je vais écrire dans ma lettre, oh là là, j'étais dans une espèce de confrérie étrange de gens qui écrivent dans les livres. Et alors, ce monsieur-là, c'est un grand libraire très réputé. Il paraît qu'il a un procédé pour créer des livres qui parlent, etc. Enfin, j'invente toute une histoire comme ça. Et donc, ça marche avec le monsieur qui est là, mais avec tous les lieux que vous pourrez croiser en vacances, un bord de route, un petit détail comme ça. L'idée, c'est qu'en fait, votre réalité, vous allez la rendre un peu plus poétique. Voilà. Par contre, si vous faites ça en jeu, le système prévoit que vous avancerez plus vite. Donc, du coup, c'est pas juste quand ça vous fait plaisir, c'est aussi valorisé par le système de jeu.
C'est incité, ouais, par les règles.
Voilà. L'idée, c'était vraiment de s'inspirer de la réalité dans la fiction, mais aussi quand vous vous promenez dans un lieu, de vous dire ah, ça pour Chrysopée, ce serait chouette. Et voilà.
C'est une manière de. En fait, c'est presque. On peut avancer de manière auto-fictive dans Chrysopée, quoi, en mettant en scène ce qu'on a vécu et en le.
Tout à fait. L'idée, c'était de rendre cette frontière entre la réalité et la fiction un peu poreuse. De manière à ce que ben voilà le quotidien de tous les jours soit plus agréable, plus magique, plus voilà, plus coloré.
Et du coup, tu penses que la contrepartie inverse est vraie, c'est-à-dire que travailler de réinjecter ta réalité dans la fiction, ça peut pas faire sortir de la fiction, mais te changer au quotidien.
Oui, c'est pas pour rien que j'ai choisi que les personnages étaient des alchimistes. C'est-à-dire que l'alchimie, c'est bon, fabriquer le plomb en or si vous voulez, mais c'est surtout un travail sur soi. Un travail de changer son regard sur le monde, d'être capable d'y voir des choses qu'avant on n'y voyait pas. Donc en l'occurrence, c'est ce que j'espère font les joueurs de jeux de rôle aussi, en question d'imaginaire. Alors pas que, hein, les lecteurs, les publics de films, les choses comme ça. Mais c'est que tout d'un coup. Voilà, le monde prend une saveur particulière et comme vous êtes en correspondance avec quelqu'un, vous allez découvrir peut-être une partie de la personne que vous ignoriez jusque-là. Moi, j'ai fait une partie avec quelqu'un que je n'avais jamais vu et jamais rencontré. Donc, je ne l'ai découvert qu'à travers la fiction qu'on a échangée avec Chrysopée. Et du coup, on est devenus super copains, c'était sympa, mais c'est particulier de jouer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà, donc on fait aussi des découvertes sur soi, on apprend aussi tout le monde intérieur des autres. Et ça, c'est plutôt bien.
Et du coup, il y a moyen de jouer avec des gens qu'on ne connaît pas.
Absolument.
T'as ouvert un site de rencontre ou...
Alors, en fait, j'ai pas un site de rencontre, j'ai ce qu'on appelle un atelier. Ça paraît un peu inquiétant. C'est-à-dire que je fais partie d'un groupe d'auteurs indépendants qu'on appelle les ateliers imaginaires. Et sur les ateliers imaginaires, j'ai une petite rubrique à moi. Et donc, j'ai ouvert une rubrique qui s'appelle alchimiste cherche correspondant. Donc si vous cherchez quelqu'un parce que vous avez envie de jouer, mais dans votre entourage, vous ne voyez pas trop qui, ben, vous pouvez déposer une petite annonce. Alors oui, c'est presque un site de rencontre pour dire « Hey, j'aimerais bien jouer, est-ce qu'il y a quelqu'un que ça intéresse ?» Sinon, j'ai aussi une page Facebook et donc on peut passer par là. Et sinon, on peut aussi m'envoyer un mail et moi, je retransmets parce que souvent, on me dit à l'oral « J'aimerais bien tester ton jeu, mais j'ai personne à qui jouer. » Alors du coup, je dis « Ah bah ça tombe bien parce que je cherchais quelqu'un et puis j'ai trouvé quelqu'un. » Après, c'est votre responsabilité. Moi, ce qui se passe après, c'est après ce que vous faites, ça me regarde plus.
Et du coup, je voulais revenir à tes inspirations et à tes lectures pour savoir plus précisément ce qui a inspiré Chrysopée.
Alors, on va reprendre les Cités obscures de Schwitten et Peters, qui sont des bandes dessinées. Qui connaît les Cités obscures? Ah ouais, il y a toute une branche là-bas. Ah bon, vous connaissez? Non, je... Alors, les cités obscures, ce sont des tomes qui explorent notamment des villes et des architectures particulières. C'est une ambiance qui est, pour le coup, très vintage, un peu 19e, un peu... C'est souvent des histoires de voyage. Oui, à la Jules Verne...
Non.
Ah non, d'accord, c'est... excuse-moi. Et donc, ça, c'est une grosse inspiration esthétique. Les cités obscures, que ce soit les grandes villes comme ça, monumentales, avec d'immenses escaliers, les cités cathédrales, les lieux un peu fantasmagoriques avec des map-mondes qui volent dans le ciel. Voilà, ça, si vous ne savez pas ce que c'est, je suis sûre qu'ils ont des tomes là-bas et que vous pouvez aller piocher au fond des rayons. C'est très très beau et souvent c'est une réflexion autour de l'art du souvenir. C'est assez mélancolique comme ambiance, moi j'aime beaucoup. Donc ça, c'est la première inspiration, elle est esthétique. Voilà. Comme ça, ils font circuler... Voilà, pour ceux qui sont un peu curieux de voir... Schwitten étant architecte de formation, vous comprendrez qu'il aime beaucoup dessiner des endroits. Voilà.
C'est une manière de réenchanter son quotidien, en fait.
Ouais, il fait des super villas aussi, mais je ne sais pas quel prix elles coûtent, mais... Il est très art déco.
C'est entre celui qui a fait la station Arts et Métiers.
Voilà, la station Arts et Métiers, elle a été designée par Schwitten, en l'occurrence. Et ils ont aussi fait le bâtiment qui est à Bruxelles. J'ai oublié son nom. Il n'y a pas de Belge ? Non. Donc, parce qu'ils sont belges tous les deux. Et en ce moment, il y a une exposition de Schwitten et Peters qui s'appelle Machine à dessiner au CNAM. C'était les Arts et Métiers, là, à Paris. Voilà. Pour ceux qui seraient parisiens, ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, les grands univers comme ça. Donc ça, c'est en littérature. Qu'est-ce que je peux citer d'autre? Alors le problème, c'est qu'après, on va passer dans le jeu vidéo. Vas-y. Alors, est-ce qu'il y a des joueurs de jeux vidéo dans la salle? Bon, oui, bah, ça va le faire. Alors, est-ce qu'il y en a qui connaissent les séries Myst? Myst 1, 2, 3, youpi! Ah bon, c'est... Bah voilà, ça c'est une énorme inspiration de Chrysopée, ce voyage un peu d'exploration. Alors vous n'aurez pas d'énigme à résoudre, c'est un excellent jeu. Je crois que le premier Myst doit dater de...
95,
quelque chose comme ça. Hein. Donc c'est pas non plus récent. C'est excellent, c'est très beau, c'est beaucoup de paysages, c'est de l'exploration, c'est un mécanisme qu'on appelle, alors attention c'est un peu compliqué, mais en fait ce qu'on appelle la rétention fascination, c'est-à-dire quand on ne vous dit pas tout, ça vous donne envie d'aller explorer plus loin. C'est des jeux qui sont basés sur ce principe-là, que j'ai essayé de remettre dans Chrysopée. Un excellent jeu qui est beaucoup plus récent, qui s'appelle Journey, qui est sur le PlayStation Store, qui est un petit jeu où on explore un paysage complètement mélancolique et où on ne parle pas. On émet des petits sons. Et on doit passer comme ça dans un univers de désert. Donc le monde, les zones immobiles sont directement inspirées des univers de Journey. Comme ça, c'est des ruines dans le sable. C'est super mignon et poétique. Je vous le conseille si vous aimez bien.
Tu l'écris comment ?
Journey, voyage en anglais. Journey. C'est vraiment trop trop bien. Et en plus, ce qui est chouette, c'est que si vous connectez votre PlayStation sur Internet, vous pouvez jouer à Journey à deux avec un joueur, vous ne savez pas qui c'est. Il est tiré au sort, et puis vous jouez avec lui, puis comme vous ne pouvez pas communiquer par écrit, il n'y a pas de chat, bah débrouillez-vous. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Quoi d'autre ?
Un animé
maintenant. Mushishi, qui est un animé où vous... en plusieurs tomes, à ne pas j'ai compris autre chose. C'est un manga aussi d'ailleurs. C'est un animé, mais c'est aussi un manga papier où on suit les aventures de Gin, qui est un mushishi, c'est-à-dire un mushishi, c'est-à-dire qu'en fait, il. Oui.
J'adore.
Ah, c'est trop bien. Mushishi, c'est trop bien. Et en plus, il a été interdit en France pour la loi Evin, parce que Guine fume, la fumée dissipant les esprits, sauf qu'avec la loi Evin, on n'a pas le droit de voir un personnage qui fume à la télé, donc du coup, il ne passera pas en France, mais vous le trouvez sur Internet très bien. Où en fait, vous jouez un petit personnage qui voilà. Doit... Vous l'avez... Ah bah voilà.
Ici,
vous jouez quelqu'un qui résout les déséquilibres entre les hommes et les esprits, globalement. Un manga qui est complètement pacifiste et non-violent, avec un bon gros discours écologique, philosophique, et c'est dans des paysages au fil des saisons d'un Japon un peu intemporel, et ça c'est extraordinaire. J'en oublie.
Mais alors dis-moi, là je te parle de littérature, et tu m'as cité une BD, un jeu vidéo, et un manga.
Bah ouais, mais je suis désolée, tu me dis les inspirations, moi je te donne tout.
Oui, mais la question était... C'était, je me faisais
oh mais bête, si, mais... j'en oublie un, mais je me disais bien que j'oubliais quelque... La Horde du Contrevent. Ah. Qui l'a lu ? Ah, La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Pareil, récit de voyage dans un univers étrange, un peu métaphysique, avec un gros travail sur le langage, sur l'écriture, avec une quête qui, pour le coup, est une pure quête alchimique de Chrysopée, atteindre le bout du monde et l'origine du vent. Voilà, par exemple. Oui, ça, c'est une énorme inspiration de Chrysopée, La Horde du Contrevent. Voilà. Bon, je n'ai pas la prétention d'avoir fait... Mais voilà.
Mais du coup, je te repose la question. Ma question était un peu polémique.
Ah, mais Mushishi, c'est un manga.
Oui.
Ils l'ont. Hein. Les Cités Obscures, oui. Bon, vous allez vous mettre aux jeux vidéo. Myst, c'est des romans aussi. Comment je me rattrape, c'est très dur.
Bah, du coup, je vais me faire plus explicite. Mais est-ce que tu penses pas que tout ça, c'est finalement des supports de littérature qui sont juste pas des romans, quoi. Qui partent pas forcément d'un texte écrit.
Ah. Ça, mon cher, ça se rapproche du roman graphique, quand même. On peut débattre dessus, mais La Tour de Schlitten et Peters, ça tient du roman. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Non ? Si, oui ! Ah bah t'as pas écouté.
Non, mais vas-y, retourne la question.
Je disais, est-ce que tu penses que La Tour de Schlitten et Peters se rapproche du roman ?
Peut-être pas du roman, mais du livre, du récit ésotérique.
Mais du coup, donc, on peut faire de la littérature avec des BD, des jeux vidéo et du jeu de rôle ?
Oui. Ah oui. On va oui, parce que quand on écrit un livre de règles, après vous faites ce que vous voulez, mais quand on écrit un livre de règles, on utilise les mots. Et donc, quand on emploie des mots, si on les choisit bien, on peut générer une idée, un sentiment, une position, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que la poésie peut s'inviter en jeu de rôle, à la fois dans le livre de règles, mais également au cours d'une partie, dans le choix des mots qu'on utilise. C'est une forme de littérature, une forme de conte, si tu veux. Ça peut se rapprocher du conte un petit peu. Et donc, on peut choisir certains types de mots. Quand j'appelle mes personnages, non pas des personnages, mais des alchimistes, déjà d'emblée, on ouvre certaines portes, on en ferme d'autres. Si je vous parle du monde tout autour, des images qui vous viennent en tête, on a tous des mots comme ça qui nous font rêver, plus ou moins, qu'on aime employer tout le temps juste parce qu'on les trouve beaux. Je sais pas, crépuscule. C'est joli, crépuscule. Vous en avez peut-être. Julien, je t'ai posé la question tout à l'heure.
Je n'ai pas de réponse pour l'instant.
Tu n'as pas de réponse.
On va questionner le public plutôt.
Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Est-ce qu'il y en a, vous avez des mots comme ça ? Je vais vous donner les miens, comme ça... Ça ne sera pas déséquilibré. Crépuscule, sortilège, soie, grenat. C'est des mots qui sont beaux comme ça. Murmure aussi. Je sais pas. Il y en a qui veulent donner les leurs.
C'est net.
C'est net. Ouais.
C'est une jungle de sketch en fait.
C'est net.
Boréal.
Boréal. C'est joli aussi. On a tous des imaginaires qui nous viennent comme ça, avec des mots en particulier. Quand on est auteur de jeu de rôle, parce qu'on dit quand même qu'on est auteur de jeu, c'est que d'une façon ou d'une autre, on doit jouer avec la langue. Et donc, les mots qu'on utilise peuvent faire naître des mondes. Voilà. Quand on parle du monde tout autour, ben, c'est déjà quelque chose. C'est un début de graine de... Ceux qui ont joué à Myst comprendront que les mots qu'on écrit dans des livres peuvent faire naître des mondes, voilà, des âges.
Et du coup, ça explique aussi la volonté de faire un jeu par correspondance ? Ou c'est pure pratique ?
Alors, c'est pour cette histoire de voyage dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi parce que moi, j'aime bien écrire et j'aime bien recevoir du courrier, j'aime bien envoyer du courrier, donc du coup, c'était aussi un moyen de faire plaisir. C'est-à-dire qu'on écrit toujours les jeux auxquels on aurait voulu jouer. Hein. Et c'est surtout que c'est super agréable de s'envoyer des lettres, voire même avec des petits détails en plus. Et puis, ça c'est un temps particulier, c'est-à-dire que c'est pas le temps de la discussion, c'est le temps où on s'assoit, où on se coupe un peu du quotidien et on se dit je vais prendre 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure à consacrer à quelqu'un en particulier qui n'est pas là, mais quand même. Et par l'écrit, on suggère des choses qu'on dirait pas forcément à l'oral, justement en utilisant le choix de la ponctuation, du langage. On se dévoile aussi, il y a une forme d'intimité, voilà. C'est plus facile parce que comme l'autre n'est pas là, on n'a pas son jugement sous les yeux. Donc du coup, on peut s'amuser à suggérer des choses, attendre de voir ce qui se passe, ça fait un peu de suspense, c'est une partie du jeu.
Mais un jeu, c'est pas fait juste pour s'amuser ?
Question de troll. Alors non, moi je suis persuadée... Enfin, un jeu, c'est fait pour prendre du plaisir, ça c'est certain. Et pour s'amuser, bien sûr, l'idée c'est qu'on passe un bon moment, c'est évident. Mais ça ne sert pas qu'à ça. C'est-à-dire qu'avec le jeu, on peut apprendre certaines choses, on peut découvrir, on peut changer d'avis sur les gens, on peut changer son regard sur le monde. C'est un média puissant qui peut ne pas être anodin. Voilà, qui peut donner envie de faire de la philosophie, de faire de l'art, de s'intéresser à plein de sujets. Je ne sais pas combien des rôlistes qui sont ici sont dit « Oh là là, je dois faire un jeu sur, les sous-marins de la Seconde Guerre mondiale, j'y connais rien. » Et qui sont allés taper « sous-marins de la Seconde Guerre mondiale » sur Wikipédia et qui se sont mis à s'intéresser aux sous-marins de la Seconde Guerre mondiale, à la relativité restreinte, à la botanique ou je ne sais pas, ou à une œuvre d'un auteur en particulier. Par le jeu, on apprend beaucoup de choses.
Et du coup, tu penses que sur la route de Chrysopée, je veux dire, c'est pas, je vais pas me rendir le livre en disant ce livre va changer votre vie si vous le lisez. Il faut le pratiquer aussi pour que ça, pour que ça puisse agir.
J'espère déjà qu'à la lecture, il soit agréable à lire et que vous passiez un bon moment, et que ensuite, ça vous donne envie de faire des choses. C'est-à-dire que ça soit une porte ouverte à tenter des choses ou des expériences, même si vous jouez pas à Chrysopée, ça c'est pas très grave. L'important, c'est que ça vous donne envie d'essayer de faire des choses avec des gens. Après, si vous testez Chrysopée, si normalement je ne l'ai pas trop mal fait, effectivement il faut le pratiquer pour aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que lire un livre est une chose, mais quand on achète un jeu, il faut jouer au jeu. Vous avez perdu au jeu. C'est-à-dire que pour comprendre comment fonctionne un jeu, il faut le tester un petit peu. Il faut voir comment il s'organise. Ça vous permet aussi de comprendre où sont ses limites éventuellement, puisqu'ils en ont tous. Mais c'est bien d'avoir un livre de jeu, c'est mieux de jouer au jeu en fait. Parce que la relation à l'autre, elle n'existe que quand vous jouez. Elle n'existe pas à la lecture. Et quand on écrit un jeu de rôle, on parle bien de relation à l'autre.
Donc je reviens sur ma définition première, mais en fait quelque part un jeu et avoir un système de règles, c'est organiser une relation à l'autre. Ça sert à ça.
Moi j'aime bien ta définition. J'aime beaucoup ta définition qui est qu'effectivement, dans un jeu, un système de règles sert à organiser une relation. Voilà. Et normalement, si vous avez envie d'un type de relation particulier, vous allez faire les règles qui permettent ce type de relation. Voilà, après on peut en débattre. Mais...
Et du coup, tu as parlé de tes inspirations, mais tu n'as pas cité de jeu de rôle dans tes inspirations. Alors, on va recommencer. Quel rôle
est-ce qu'on parlait de littérature. Ouais.
Ah non, tu peux pas me répondre sur le mode troll, non, c'est moi qui lance les
Oh, c'est pas
les saletés.
Non, toi, alors il y a trois, d'accord. Il y a trois jeux de rôle qui m'ont inspiré Chrysopée. On va commencer par un jeu de rôle qui s'appelle Sens, qui est une hexalogie en six parties, qui est un jeu de rôle indépendant, étrangement, qui a été écrit par Romaric Briand et qui est un jeu qui permet de faire de la philosophie et du jeu de rôle en même temps. Voilà, c'est un jeu à secret, en campagne, trop bien. Ensuite, le jeu qui s'appelle Prosopopée de Frédéric Sintès, qui est un jeu très inspiré lui aussi de l'univers de Mushishi, où on joue des personnages qui vont devoir régler des déséquilibres entre les êtres humains et la nature. En s'entraidant les uns les autres dans une ambiance très tranquille et très contemplative, et très poétique également. Et puis, le jeu La saveur du ciel de Fabien Hildvagn, qui est un jeu à deux où on fait la cuisine. Voilà. C'est-à-dire qu'on joue un maître cuisinier et un apprenti maître cuisinier. Le but, ça va être de faire le plat le plus extraordinaire du monde. Voilà. Et donc, petit jeu comme ça. Donc, Sens, c'est pour le côté un petit peu épopée, un peu métaphysique. Prosopopée, c'est pour le côté poétique. Et La saveur du ciel, c'est pour la relation à l'intimité à deux. Voilà.
Tu joues à d'autres jeux que ces trois-là tu...
Non. Si, alors je joue à un excellent jeu de rôle qui sera à découvrir ce soir, qui s'appelle Perdu sous la pluie, Vivien fait à 100, où on joue des enfants perdus sous la pluie qui se font manger par des sirènes, vous allez voir, c'est génial. Je joue à des jeux comme Agone, jeu de rôle inspiré de l'univers de Mathieu Gabory.
C'est un jeu qui a une vingtaine d'années.
Oui, c'est ça. Mais c'est comme le vin, je sais, c'est pas parce qu'ils sont vieux qu'ils sont mauvais. Qu'est-ce que j'ai, des petits jeux comme ça, bon, j'aime beaucoup La Saveur du Ciel, un petit jeu qui s'appelle Les Petites Choses Oubliées, où on joue une relation un petit peu à la, comment s'appelle ce film, Endless, je mélange tout,
Eternal Sunshine
of the Spotless, en gros on joue un couple qui s'est séparé, qui voudrait perdre la mémoire, et donc on va revivre les derniers souvenirs de ce petit couple-là, avant qu'ils décident ou pas de se séparer. Voilà, qu'est-ce que j'ai testé d'autre qui m'a bien retourné la tête, les jeux des princes d'ambre, inspiré du roman du cycle des princes d'ambre également. Donc on joue des princes qui se tirent dans les pattes pour obtenir le trône et pour découvrir l'univers très compliqué des princes d'ambre. Donc je ne vous fais pas la scénario, mais c'est très très bien. Et puis, je ne peux pas tout...
Donc du coup, grosse... comment je voulais dire gros rythme de jeu?
Non. En fait, pas tant que ça. Moi, je fais aussi ce qu'on appelle du jeu de rôle grandeur nature, qu'on appelle du GN, convenablement. C'est du jeu de rôle, mais incarné, comme du théâtre d'improvisation. Je synthétise, mais grosso modo, vous mélangez le jeu de rôle avec les personnages, l'univers, tout ça, et le théâtre d'improvisation. Vous enlevez le public, et ça fait du jeu de rôle grandeur nature. Et ça, ça occupe aussi pas mal de temps pour moi.
Et ça, est-ce que tu peux en parler un peu plus? Est-ce que des gens ne connaissent pas?
Alors, qui ne connaît pas le jeu de rôle Grandeur Nature?
Nous avons une personne ici, 2, 3, 4, 5, 6.
Qui connaît? Qui en a déjà fait? Bon, bah, du coup, tout le reste, évidemment.
Non, c'est bon, faut connaître et faire la même chose.
Il y a connaître et faire. Alors, qui connaît? Qui en a déjà fait? D'accord. Donc, pour ceux qui. Voilà, alors, pour le coup, le GN, c'est quelque chose que j'aime énormément pour le côté de l'incarnation de la fiction dans le réel. Le fait que vous êtes en train d'interpréter des personnages, comme si vous étiez au théâtre, en costume, avec le maquillage s'il faut, etc. Sauf que vous n'avez pas de scénario, donc du coup, ben, ce sont vos actions qui vont faire avancer l'histoire entre les différents participants. Je synthétise à peu près Monsieur Enfin, hein, je simplifie un petit peu la chose. Et ce que j'aime énormément, c'est le fait que... Ben, quand vous avez une action à faire, il ne s'agit pas de décrire l'action que vous faites, mais bel et bien de la faire. C'est-à-dire que si à un moment donné, je ne sais pas, j'ai envie de coller une... Je ne sais pas, de tirer une... Je sais pas. Admettons, nous sommes des mafieux, je veux lui faire du mal, je veux le menacer avec mon arme, et bien je vais prendre ma réplique de pistolet et je vais venir le menacer. Et donc je ne vais pas lui dire, je te menace avec mon arme, mais je vais me planter devant lui et je vais lui dire, file-moi le magot. Et voilà. Globalement. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup pour cette espèce de porosité, le fait qu'effectivement, on peut utiliser des éléments du réel pour faire advenir des situations fictives. Voilà. C'est très sérieux comme phrase.
Non, c'était plutôt pas mal.
Ouais.
Ça va ? Tout le monde a suivi ?
Ouais.
On fait un petit questionnaire à la fin avec...
Note avec des panneaux.
Oui. Un autre sujet que j'aurais aimé aborder avec toi, c'est tu écris aussi de la poésie. Tu écris des haïkus notamment. Et je voulais voir un peu comment tu articulais, comment tu as expliqué plusieurs fois, en parlant de tes inspirations, en parlant des jeux, tu utilises le terme poétique, qui est un terme qui peut être employé de manière, avec une connotation très positive, et parfois avec une connotation très négative. Et je voulais savoir qu'est-ce que ça représentait pour toi, et comment tu articulais jeu et poésie.
Alors, pour définir la poésie, en fait, il y a une phrase que j'aime énormément, qui est que la poésie ne dit rien, mais elle suggère tout. C'est-à-dire que la poésie, ça n'est pas donner une information, mais c'est ouvrir un espace de suggestion. Voilà, les fameux mots-clés dont on a parlé tout à l'heure, qui, au-delà de ce qu'ils signifient, font écho à des souvenirs, à des sensations, à des envies. Et donc moi, j'utilise poésie dans ce sens-là, c'est-à-dire que ce sont des mots qui sont des générateurs d'images, de sensations, choses comme ça. Des mots comme des ouvertures. Et j'aime beaucoup la poésie pour ça, pour ce côté pas du tout factuel de l'information objective, mais pour le fait qu'on utilise un mot pour sa couleur ou pour son son, et que c'est à l'autre en face d'y mettre ce qu'il veut. Alors après, ça fait un jeu de code et de décodage aussi, ce qui est intéressant dans une correspondance, par exemple. Mais j'aime énormément la poésie pour ça. parce que, bah voilà, elle soulève un voile sur quelque chose qui paraissait très normal et qui finalement prend une saveur différente. Et c'est aussi, elle a la capacité de suspendre le temps. La poésie, quand on la récite ou quand on la lit, elle a une saveur particulière qui nous fait sortir du train-train ou de la précipitation de tous les jours et qui a la capacité de nous mettre en apesanteur pendant un petit moment. Les haïkus, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un type de poème japonais très court dont le but est juste de capter un instant. Ça peut être une fleur qui tombe, ça peut être, je sais pas, une petite situation, une lumière, une expression, quelque chose. C'est vraiment très court, hein. C'est 5 pieds, 7, 5. Donc ça fait vraiment des tout petits poèmes. Et le but, c'est juste, hop, de figer un instant, comme ça, de le suspendre un moment, d'en profiter, puis après c'est fini. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime énormément.
Quand tu parlais de sens tout à l'heure, tu disais que c'était un jeu qui permettait de faire de la philosophie. Est-ce que sur la route de Chrysopée, c'est un jeu qui permet de faire de la poésie?
Ah, j'adorerais. J'aimerais beaucoup. C'est oui, j'aimerais. Je sais pas si ça le permet, mais en tout cas, j'aimerais bien que ça le permette. J'ai fait en sorte que ça puisse. Voilà. Après, moi, j'écris un livre de règles. Ce sont les gens qui jouent.
Et du coup, par rapport, le jeu et la poésie, c'est des choses qui se complètent, qui s'imbriquent, qui se superposent. C'est deux activités trop différentes pour.
Non, moi, je pense qu'on peut faire, de la poésie et du jeu de rôle. Les deux en même temps, prosopopée, qui le jeu de Frédéric Sintès, est un jeu qui permet ça, notamment, de travailler comme ça sur les suggestions, sur les choses comme ça. Est-ce que ça s'imbrique? Est-ce que ça... Je pense que ça fait écho. Je pense que poésie et jeu de rôle fonctionnent sur le même principe qui est l'espace de suggestion. Voilà. Le jeu permet d'explorer des possibles, la poésie permet de faire ça. Je suis sûre qu'on pourrait faire un jeu où on fait que des poèmes. Voilà.
Mais quand est-ce qu'on tape des dragons alors?
En alexandrin uniquement. Tu ne bats les dragons uniquement avec des alexandrins.
Pendant voilà. Quelques années?
Pendant quelques... Je sais pas, ça dépend de la taille de ton dragon. Ce serait intéressant, les dragons sont des poètes. Hein. Tous ceux qui ont lu Bilbo le Hobbit savent qu'ils aiment les énigmes et la poésie. Bon, je suis sûre que tu dois pouvoir faire une battle de poésie avec un dragon.
Alors moi j'ai fini mes questions, mais si des gens dans le public veulent en poser d'autres, libre à vous de le faire.
Oui.
Est-ce que votre jeu a un lien avec le roman L'Alchimiste de Paolo Coelho, qui a aussi un parcours initiatique
Alors je ne l'ai pas relu. Je l'ai pas relu en écrivant Chrysopée, mais je l'ai lu il y a quelques années de ça, et je pense qu'il est au fond comme l'œuvre noire de Marguerite Yourcenar. Ça fait partie des ouvrages comme ça. Oui, je pense qu'il a dû rester... il a dû semer une graine là, au fond, qui est restée, en fait. C'est vrai que j'y ai pas pensé spontanément, mais maintenant que vous le dites, ça paraît assez... Oui, il y a une histoire de... Il y a une histoire de quête initiatique, il y a une histoire...
Oui, c'est vrai, des choses à découvrir petit à petit, qui
c'est ça.
Avancer aussi.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Je pense que... Moi, je l'avais pas pensé consciemment, mais à mon avis, il existe, ouais. Excellent, ce roman. Oui.
Le roman, c'est aussi un peu une littérature orale, puisque c'est la voix, enfin dans la partie classique.
C'est pour ça que je parlais du conte tout à l'heure.
Et dans votre système, je ne connais pas, il n'y aurait pas moyen d'enregistrer en fait sa voix et de l'envoyer.
Si. Si, c'est vachement cool. une lettre audio, c'est extraordinaire. Alors après, il faut trouver l'objet qui le permet. Enfin, il faut le créer. Parce que pour l'instant, dans le monde tout autour, avec la technologie qui est la leur, ça veut dire que par là-bas, elle est quand même pas. oui, il y aurait tout à fait possibilité, pourquoi pas, de. Tous les alchimistes ont un orbe avec eux qui leur permet d'envoyer des messages. On pourrait imaginer modifier l'orbe ou d'en faire une version améliorée, de manière à pouvoir enregistrer sa voix. Ce serait trop bien d'ailleurs. Il n'y a que le vent qui. Ah, nous avons un aéré par ici. Mais ce serait effectivement possible de faire ça. Alors l'avantage de la correspondance, c'est qu'elle a il y a un support matériel, c'est-à-dire que vous pourrez, enfin il y a le papier, il y a le plaisir, mais après pourquoi ne pas envoyer la retranscription, des choses comme ça. Oui.
Primitif, on va dire, entre guillemets.
Une cassette. Non mais oui, ce serait. Non mais ce serait. pourquoi pas. Moi, je suis sûre, honnêtement.
Les cylindres.
Mais oui, c'est, à mon avis, c'est tout à fait quelque chose qu'à Esquire du Ponant, ils sont en train de travailler en ce moment. Ouais. Les connaissants.
Le phonomarbre, c'est très primitif, avec un disque en cire et une petite avec son.
C'est
ça
que je pensais justement, et ça resterait.
Après, si au bout d'un moment, vous faites vraiment graver les vinyles, il faut me les envoyer. Après, on fait une vraie bibliothèque avec les vinyles. Non, mais enfin, j'ai l'air de plaisanter comme ça, mais je trouve que c'est une excellente idée.
Du coup, ça me permet de rebondir. Quand on discutait un peu avant la rencontre, là, tu me disais que tu étais très attiré par le multimédia et que tu étais persuadé qu'il y avait une voie de développement du jeu de rôle aussi en mêlant plein de choses différentes, des sons, de l'audio, des voix, des trucs comme ça.
Oui, puis des odeurs, pourquoi pas. Enfin, vous imaginez, je sais pas, vous êtes un parfumeur, alors du coup, vous envoyez des flacons d'odeur ou de parfum à la personne avec qui vous correspondez, c'est extraordinaire, enfin, ce serait top. Mais oui, j'aime énormément l'idée du transmédia, c'est-à-dire que ça se passe pas uniquement ou par écrit ou par oral, mais qu'on peut échanger des objets ou qu'on peut tester des façons différentes d'appréhender une fiction. Des tissages, des odeurs, des choses comme ça, du son, moi, je trouverais ça trop bien, un recueil. Une correspondance uniquement audio, ce serait un truc de fou. Oui, non, le transmis. Pour ça, entre autres, que je disais, on peut prendre des photos pour les mettre dans la fiction. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un appareil photo. L'idée, c'est de pouvoir utiliser son téléphone pour pouvoir aussi les envoyer éventuellement par SMS, petit format court. Genre, oh, je suis coincé sous le tunnel de je ne sais pas quelle montagne au fin fond du monde. Je vous rappelle dans 3 jours. Enfin, je vous recontacte dans 3 jours. Avec la photo des embouteillages de Paris. Par exemple. Ah non, ce serait trop bien. Il y a une expérience qui a été tentée comme ça par un groupe d'amis. Ils ont inventé une tribu fantastique dans un Tibet un petit peu imaginaire. Et comme ils sont tous sociologues, anthropologues, ethnologues, ils se sont amusés à refaire les objets, les tissages de la tribu en question. Voilà. Je sais que sur une de mes parties, j'ai joué avec la personne que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Fabien. Notre quête, c'était trouver le langage des pierres. Voilà, une correspondance qui doit faire 93 pages maintenant, à l'heure actuelle.
Toujours en cours,
parce que monsieur est très occupé, mais je ne peux pas lui en vouloir. C'est juste que quand il m'enverra sa prochaine lettre, je vais lui taper sur les doigts en disant que ça fait 6 mois que je l'attendais et qu'il abuse quand même un peu. Mais en tant que personnage, hein, pas en tant que moi-même. Et en fait, j'ai trouvé chez une céramiste, à côté de chez moi, des céramiques en boule, comme ça, qui sont gravées avec des graines à l'intérieur. Quand vous les secouez, ça fait du bruit. Et en fonction de la céramique et de la graine, ça fait des bruits différents. Et du coup, j'en ai pris une petite et je lui ai envoyé par la poste avec ma dernière lettre, en lui disant « Regarde, je trouve une pierre qui chante ». Elle appelle ça, elle, les pierres à rêve. Et du coup, ça tombait pile dans ce qu'on était en train de se raconter. Et en fait, c'est arrivé le jour de son anniversaire. Sauf que je connaissais pas la date de son anniversaire. Donc, je me dis, oh, c'est trop bien, c'était mon anniversaire. Voilà, ça fait partie des coïncidences un peu magiques comme ça qui font que c'est chouette. Donc, on peut s'échanger des objets. Voilà. Et tout ça, c'est des pistes. Vous n'avez pas besoin de chrysopée pour le faire, vous.
Je vais poser une question un peu trop
burlesque. Ça m'étonne de toi.
On en attendait pas
ça
moins.
Ça m'étonne de toi.
En fait, c'est quelque chose qu'on a beaucoup reproché à la fiction et du coup qu'on a encore plus reproché ensuite au jeu de rôle, c'est l'idée de sortir les gens finalement du réel, de les embarquer finalement dans une espèce de monde imaginaire et tout ça. Et du coup, est-ce que le réenchantement du réel, est-ce qu'il n'y a pas le risque que ça devienne justement du coup une forme de coupure du réel, c'est-à-dire du coup on utilise le réel comme une source de fiction et finalement le réel est plus apprécié pour ce qu'il est lui-même et on creuse plus le réel pour ce qu'il est mais pour ce qu'il peut nous apporter pour notre fiction en fait.
J'aime bien tes questions troll. Alors moi je suis pas du tout d'accord dans le sens où oui, c'est un risque possible, comme ce risque peut exister avec des gens qui s'enferment dans un film ou dans un personnage de livre, ou cette idée que l'imaginaire peut s'emparer de nous et nous couper du monde. Et moi, les gens que j'ai rencontrés qui étaient très portés sur les cultures de l'imaginaire sont des gens qui sont extrêmement curieux, hyper investis, très sensibles aux problématiques ou aux problèmes de la société. Moi je vois pas en fait ça ne me pose aucun problème, c'est-à-dire que c'est pourquoi est-ce qu'on devrait s'interdire de rêver Voilà. C'est... Après, c'est la place du rêve, c'est l'espace qu'on lui donne. Mais pour moi, il est très important qu'on puisse rêver. Parce que dans le rêve, on se reconnecte à une part de nous, à une part des autres aussi. On laisse advenir des choses qui nous font vibrer, qui nous font plaisir et qui nous font exister. Et j'aime pas du tout cette société actuelle qui nous empêche de rêver. Voilà, c'est pour ça que justement l'idée c'était de faire revenir la fiction dans la réalité. Parce qu'en final, quand tu prends une photo pour t'en servir pour la fiction, avant de te dire ça va servir pour la fiction, t'es bel et bien dans le réel. C'est-à-dire que la posture que tu as, c'est une posture qui est bien réelle. Et l'objet que tu vois, il est bien réel. Et donc du coup, c'est pas une coupure que tu fais, c'est un pont. Voilà.
Oui, mais peut-être qu'il faut reprendre ça dans le sens de monsieur. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez spécifique à notre époque, c'est que les récits ne sont plus des outils pour aider à vivre, comme ils pouvaient l'être dans les cultures très anciennes, où finalement on était toujours en train de réfléchir à la situation de la culture ou des gens à travers les récits imaginaires. Mmh. Aujourd'hui, il y a quand même une culture de l'imaginaire qui a tendance à être une forme de rupture avec la réalité. Et ça, on ne peut pas non plus faire comme si c'était pas vrai. Quoi.
Ouais.
Il y a cette idée qu'on pourrait vivre dans une autre réalité, enfin les second life, tout ça, qui n'aurait plus rien de réel. Et finalement, abandonner définitivement son corps, le monde, etc.
Ouais. Alors, je sais pas pour la littérature, parce que elle est tellement vaste, et les auteurs sont tellement divers. Enfin, je vais reprendre l'exemple d'Alain Damasio, avec La Horde du Contrevent. C'est quelqu'un qui est extrêmement investi dans les problématiques actuelles de technologie, de rapport à la communication. Il fait des blogs, il fait des articles. Et j'aime pas trop l'argument qui c'était mieux avant, parce que c'est juste ça bouge. Mais enfin, moi je pense que dans les auteurs actuels, on en trouve dès qu'ils font des ponts. Après, pour les histoires de coupure avec la réalité, en fait, c'est pas tellement. Enfin, ça va être un peu gros ce que je vais dire, mais c'est pas ces gens-là qui sont à blâmer. C'est-à-dire que c'est pas sur ces gens-là qu'il faut taper. Les gens qui.
C'est pas de la responsabilité de l'auteur, pardon.
Ah, l'auteur est-il responsable de son œuvre ? Je pense en fait que si des gens se coupent de la réalité, c'est pas le terme de réalité d'ailleurs, c'est pas ça. Si des gens se coupent de la société dans laquelle ils sont, c'est parce que cette société ne va pas bien pour eux. Et donc c'est la société qu'il faut regarder. C'est pas sur ces gens-là qu'il faut taper, c'est sur les. Faut pas taper sur les malades, j'ai envie de dire. Faut essayer de remonter à la cause du problème. Ils le font. Je crois qu'ils l'ont toujours fait. Je pense qu'ils l'ont toujours fait sous des formes différentes. Après, on nous a beaucoup enseigné les questions des récits chamaniques, les odyssées anciennes, les épopées, etc. Donc on a appris ça à l'école comme étant des récits qui étaient des récits initiatiques. Mais je pense qu'il y a énormément de livres qui sortent aujourd'hui qui sont, à leur manière, des récits initiatiques encore aujourd'hui. Enfin, il n'est pas tout neuf, mais pour moi, L'Enchanteur de Barjavel... C'est un récit initiatique. Alors oui, il prend comme postulat la légende arthurienne, mais c'est juste dans la façon dont il a de traiter le sujet. Voilà, c'est pas tellement le fond que le... Je sais pas si je suis très claire. La question est super intéressante, il aurait peut-être fallu que je la... Mais j'ai toute la soirée pour y réfléchir, hein, mais... oui, les récits le font, mais tout type de récit, parce qu'un récit, c'est pas uniquement un livre. Vous avez des récits dans les bandes dessinées, vous avez des récits dans les jeux de rôle, vous avez des récits dans les jeux vidéo, vous avez des récits dans les films. Je pense que se raconter des histoires, c'est fondateur de l'humanité, parce qu'elles permettent de rêver. Après, les supports des rêves sont différents. Mais les récits, quels qu'ils soient, je pense que c'est une forme de construction de la société, et éventuellement de réparation ou de questionnement. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'il est très très important qu'on s'autorise à rêver. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on arrive justement à faire la part des choses pour la réalité, de ce qui nous convient, de ce qui ne nous convient pas, et puis des déséquilibres que ça peut engendrer chez nous aussi. Voilà. Ça va toujours ?
Vivien, une autre question ?
Une autre question troll ?
Non, je peux éventuellement rebondir sur ce qu'on vient de dire, effectivement. Donc du coup, l'auteur responsable ou pas responsable, c'est-à-dire, ok pour le droit à rêver, mais est-ce qu'il y a des formes de droit à rêver qui portent préjudice au lecteur ou coup? Est-ce que toutes les formes sont bonnes et finalement le problème viendrait du coup de la société? Ou est-ce qu'on peut considérer que certaines œuvres sont nocives finalement?
Je pense que l'auteur doit être conscient de ce qu'il met dans son travail. C'est-à-dire que... en fait, toutes les formes sont bonnes, parce que dire telle forme elle est bonne, telle forme elle est mauvaise, c'est extrêmement moralisateur, et ça change d'une société à l'autre et d'un temps à l'autre. Ça, c'est une question. Par contre, du coup, c'est très intéressant d'observer dans le temps ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. C'est assez révélateur de la façon dont la société évolue. Mais je pense qu'un auteur doit être conscient de ce qu'il fait. C'est-à-dire que moi, quand je fais du réenchantement du réel, je suis parfaitement consciente que je joue avec cette frontière de la réalité et de la fiction. Mais je l'assume, et je le dis. C'est-à-dire qu'en tant qu'auteur, quand on rentre dans des voies qui peuvent être un peu sensibles, on peut y aller, mais il faut prévenir. C'est-à-dire qu'il faut dire, là, je vais vous proposer une expérience qui pourrait éventuellement bouleverser certains. Voilà, c'est une question d'honnêteté. Mais je pense que la censure, c'est très mauvais. Je suis très très contre la censure a priori, parce qu'on ne sait jamais comment ça va être reçu, parce que ça peut vraiment dépendre des gens, parce que ça peut très très bien se passer. Il faut juste être conscient de ce avec quoi on joue et être honnête en disant « je vais vous faire jouer avec telle ou telle corde ». Après, effectivement, c'est aux gens qui jouent de vouloir ou non jouer avec ces cordes-là. Mais dire a priori « non, il y a des trucs qu'il ne faut pas faire », c'est compliqué. Alors après, il y a toujours dans les sujets, ouais, bah alors avant, l'inceste, tout ça, des trucs comme ça. Moi, personnellement, je refuse de toucher à ces trucs-là. Hein. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas des choses avec lesquelles j'aimerais travailler, des choses comme ça. Voilà, parce que bon, il y a quand même des sujets. Mais il y a des gens, peut-être, ça les dérangerait pas. Je ne sais pas. Mais dans ces cas-là, il faut prévenir. Genre, attention. Voilà. Et après, il y a des cadres qui sont aussi fixés par la loi. Hein. Et puis, il y a des raisons pour ça. Et donc, voilà. Après, jusqu'à quel point l'auteur peut être transgressif ou pas? On en a pour une semaine. Je sais pas, vous avez une semaine devant vous. Mais la question est très intéressante. Moi, je pense que tu ne dois pas poser de limite a priori. Pas te dire... voilà. Après, c'est une question de sensibilité personnelle. Et c'est une question d'honnêteté vis-à-vis des gens à qui tu t'adresses.
Une
question personnelle, est-ce qu'il y a des jeux dont les propos t'ont gêné, par exemple, ou dérangé?
À titre personnel?
Oui, voilà, par contre.
Oui, non, il n'y a aucun souci. Il y a un petit jeu qui s'appelle Slay With Me, qui est un jeu qui aborde la question de la sexualité, et de la sexualité du point de vue charnel. Et c'est quelque chose qui me met très... mal à l'aise à titre personnel de jouer avec ces trucs-là, j'ai beaucoup de mal à jouer avec ça, donc du coup on a fait une partie qui était pas mauvaise, mais on n'est jamais rentré dans le propos du jeu, parce qu'en fait j'ai jamais réussi à aller jusque-là. Voilà, donc c'est vrai que c'était assez inconfortable, ce qui m'a permis de comprendre que non, vraiment j'y arrivais pas. Ça veut pas dire que dans 10 ans ça sera toujours le cas, mais voilà, c'était pas une mauvaise partie, hein, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à jouer avec ces sujets-là. Bon. Voilà, par exemple. Un autre qui m'a mis très mal à l'aise. Non. C'est plus des situations par petits bouts. Mais il y a que ce jeu-là, avec ces thématiques-là, et ça m'a vraiment dérangée, par contre. Voilà. C'est pas un mauvais jeu. C'est juste que c'est un jeu qui ne me convient pas. Ce n'est pas tout à fait la même chose. J'en cherche d'autres, mais non, sinon, comme ça, j'en vois pas. Voilà.
Ça fait une petite heure qu'on parle.
On joue.
Alors, pour continuer la soirée, on vous propose de découvrir le jeu de rôle et de découvrir des jeux, en tout cas. On va avoir plusieurs propositions à vous faire. On va pouvoir se regrouper par groupe de 4 ou 5. Alors, je crois que j'ai des assistants dans la salle.
Alors déjà, merci à tous.
Et merci à Morgane.